Rebonjour les amis, voilà, je prends la succession de notre ami Grégoire qui était à l'antenne tout à l'heure, 17h20, on est en direct de Roanne au congrès de Ville-de-France, le congrès des villes où il fait bon vivre. J'ai pas envie d'employer le terme ville moyenne, ça me plaît pas. Voilà, je dis la ville où il fait très bon vivre. L'incarnation des maires qui ont de la puissance, du courage et qui sont réélus, on peut dire vraiment qu'ils sont réélus puisque c'est son troisième mandat, je suis ravi de l'avoir puisque c'est la première fois qu'il vient sur mon plateau, le maire de Chelles, Brice Rabaste, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes également vice-président du conseil départemental, vous êtes en charge des transports et de la mobilité. Inutile de dire que c'est tout un programme. Vous avez un long parcours puisque vous avez été élu en 2014, réélu en 2020 et réélu plutôt sur un chiffre vraiment satisfaisant, plus que satisfaisant en 2026. Certains de vos collègues disent qu'on devient réellement maire au partir du second mandat. Vous dites, vous partagez ou pas?
Je pense que non. On est censé devenir maire dès le premier jour. Même s'il faut clairement une bonne année pour rentrer dans le costume. En revanche, ce qu'on peut avouer, c'est qu'on commence vraiment à maîtriser les dossiers. C'est un mandat de temps long, en fait, le mandat de maire.
C'est clair.
En fait, au bout de 15 jours, même de 5 ans, on a fait beaucoup de choses, mais on a surtout enclenché des choses. Mais on n'a pas terminé grand-chose. C'est vrai que le deuxième mandat était un mandat très intéressant parce qu'il a vu la concrétisation de choses enclenchées dans les premières années de mon mandat, dès 2014. Et le mandat de 2026 qui démarre aujourd'hui, il est aussi passionnant parce que c'est là aussi où on utilise l'expérience qu'on a utilisée pendant les deux premiers mandats, qu'on a acquis pendant les deux premiers mandats, pour permettre de relancer de nouveaux projets, parce qu'on saura les mener sans doute mieux, avec plus d'expérience et aussi une vision. Et l'enjeu vraiment pour un maire qui débute, c'est d'apprendre vite et de prendre des décisions rapidement. L'enjeu pour un maire qui a été réélu, c'est de ne pas s'endormir. Voyez. Et c'est l'enjeu, c'est de continuer de poursuivre et de continuer à avoir des idées et de s'interroger sur les grands enjeux de sa ville.
Et c'est un plébiscite. Quand je regardais vos chiffres, en fait, c'est la mise en relief de l'accord, des concertations, de tous les travaux que vous avez menés, de l'ensemble de vos administrés, qui portent en fait votre projet. Ils ont décidé de vous réélire à 3 reprises.
Bien sûr, on en est fiers. Il faut rester humble.
Oui, oui, bien sûr.
Je suis à la fois très humble et super fier, effectivement, d'avoir été élu avec un très bon score, le meilleur score des municipales, avec une grosse participation en plus.
C'est très clair.
Historique. L'enjeu, si vous voulez, c'est d'avoir la confiance des électeurs.
Ça vous rassure de vous dire que tout ce que j'ai fait pendant le premier mandat, que je commence à voir dans le deuxième mandat, et vous en entamez un troisième, 18 années quasiment, quand vous serez au terme du troisième à la tête de la mairie, c'est de voir la pérennité de vos projets, de vous dire, voilà, j'ai été suivi par des administrés qui m'ont fait confiance sur le long terme.
Exactement.
Et dire sur le long terme, dans une époque où la dictature, c'est la dictature du court terme, c'est un bon pied de nez, non, vous ne trouvez pas?
Je trouve qu'effectivement, c'est effectivement un beau pied de nez de se dire on est là sur la durée.
On veut tout de suite. Oui.
Mais moi, je crois aussi que c'est une certaine victoire d'une forme de démocratie. Dans cette campagne, comme dans les précédentes, jamais
parce
attaqué.
Que l'opposition ne vous a pas ménagé, si je peux me permettre.
Effectivement. Moi, si vous voulez, c'est une forme de victoire. De dire, on a été honnête, on a proposé, on a montré ce qu'on avait fait, on a montré ce qu'on voulait faire en 2020 comme en 2026. Et c'est une forme où j'ai respecté tous mes adversaires, j'ai jamais attaqué personne, et surtout essayer d'être très, très pédagogue, clair, avec les Chellois, pour leur dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Donc on avance sur cette direction-là. Et je pense que j'ai été sans doute aussi renouvelé, parce que les gens ont vu que j'étais dans une démarche positive, de proposition, pas de brutalisation, pas d'extrémisation du débat qui rend en fait les choses difficiles. J'ai vraiment dans une logique de rassemblement de tout le monde sous un objectif de l'intérêt général des Chelles.
Les Chellois, les Chelloises aiment leur maire. On le sait, on en a interrogé. Vous leur rendez bien parce que vous avez une approche très humaine, j'allais dire presque très républicaine. C'est presque un pied de nez. Ce que je me dis, c'est que vous incarnez finalement, avec la jeunesse que vous avez, vous n'avez que 44 ans, et vous avez déjà un troisième mandat. Donc ça veut dire que vous êtes arrivé aux affaires, vous aviez quel âge?
32 ans.
Vous vous rendez compte? Donc, et dans une ville qui n'est pas neutre du tout.
Je connais bien la ville dans laquelle j'ai grandi.
Absolument. Et donc de se dire que finalement, vous emportez par rapport à un usage contemporain qui fait qu'on consomme tout de suite et qu'on jette. Vous inscrivez dans cette durée. Est-ce qu'il n'y a pas une recette, quelque part, une recette Rabaste qui se dit c'est quoi? C'est la proximité avec vos électeurs? C'est le fait que je sais que vous êtes quasiment 7 sur 7 sur le terrain? C'est quoi ? Comment vous arrivez à gérer cette relation qui est très complexe en ce moment, où les maires, vous le savez, hein, notamment pour le premier mandat, malheureusement, on a 30% des maires qui ont jeté l'éponge quasiment dans leur première mandature. En général, ce chiffre baisse à partir du second mandat, mais vous le savez, ça devient de plus en plus dur vis-à-vis des personnes d'être maire aujourd'hui, puisque c'est le seul mandat que vous avez qui rend visible la République, qui la rend physique.
Effectivement, je pense que le mandat de maire, c'est un mandat où on peut faire des choses et on peut prendre le temps de les expliquer.
Vous avez encore du pouvoir ?
Oui, on peut réaliser des choses. On est énormément travaillé. D'ailleurs, c'est un des sens de ce congrès. Et tous les maires, quelle que soit leur ville ou leur étiquette, partagent globalement la même chose. Nous, c'est vraiment un enjeu. Je ne sais pas s'il y a une méthode ramasse. En tout cas, ma méthode, elle est sans doute d'autres maires longs. Après, chaque ville est différente. Une ville portuaire ou une ville de montagne ne fonctionne pas de la même manière qu'une ville de banlieue ou une métropole de province. En revanche, moi, je sais que je connais la mienne. C'est à la fois beaucoup de travail, de recherche, beaucoup de proximité, beaucoup de réflexion et beaucoup de contact avec les Chélois. Je ne me force pas, hein, c'est ma ville. J'y vis effectivement 7 sur 7. J'y passe beaucoup de temps. J'y vis avec ma famille et ma femme. Et en fait, je la connais et je l'aime, cette ville, et c'est pour ça que je me bats pour elle. Et je pourrais faire autre chose, vous voyez. Je pourrais avoir une autre mission ou une autre fonction ou un autre métier. J'ai choisi celui-ci vraiment par passion et je pense qu'à un moment, ça doit se ressentir.
C'est très clair. La ville aujourd'hui se construit, la ville se déconstruit, la ville se repense de plus en plus. Les épisodes de chaleur ont montré une chose, Brice Rabaz, pardonnez-moi. Que la minéralité de la ville, avec le changement climatique, c'est un vrai sujet. Et que reverdir la ville est une nécessité. Juste sur les îlots de fraîcheur, on voit des baisses de température de 3, 4, 5 degrés. On voit que le patrimoine bâti souffre également d'infrastructures mal pensées, mal ventilées, mal climatisées, avec tout ce que ça suggère comme problématique liée à la consommation de carbone. Vous qui êtes dans une ville qui est attractive, qui a une démographie positive, dans laquelle, effectivement, on a à la fois les avantages de la grande ville ou de la grande agglo et tous les l'avantage de la petite ville où il fait bon vivre. On fait comment, quand on est maire, aujourd'hui, pour essayer de mieux construire tout court, et absorber tous ces habitants qui viennent vous demander à vous, Brice Rabaz, tous les vendredis à la mairie, ou quand vous êtes en permanence, j'ai besoin d'un logement, est-ce que vous construisez ? Quelle est aujourd'hui la position que vous avez, vous, en tant que maire, face à ce qu'on pourrait appeler la transformation de la ville et du logement, qui vit aujourd'hui une crise sans précédent depuis la naissance de la Ve République ?
Vous mettez le doigt sur un des grands enjeux, qui n'est pas simple à relever, parce qu'effectivement, on ne change pas une ville ou un pays qui a mis des siècles à se construire en 5 ans. Et c'est un des enjeux du réchauffement climatique, c'est que ça va vite. On a beaucoup lutté contre les passoires thermiques, en général, dans nos bâtiments municipaux ou logements. On a lutté contre la consommation d'énergie, notamment pour l'hiver. On a peu pensé au confort d'été, qui est un des enjeux aujourd'hui. Et même en isolant, parfois, vous avez parlé de ventilation, c'est un des enjeux pour nos bâtiments municipaux ou pour les logements en général. Comment on pense justement à la résilience en période de chaleur, avec aussi des hivers qui peuvent être rigoureux, avec une amplitude de température qui donc peut être très importante, parfois en peu de temps d'ailleurs, comme le début de l'année nous l'a montré. Ça, c'est un enjeu, vous parliez de l'eau de chaleur, aussi avec la végétalisation aussi. Ça, c'est si vous voulez... C'est notre enjeu de vie, parce qu'il faut qu'on aille vite sur des choses qui vont prendre du temps.
Est-ce que vous y arrivez, vous, à absorber cette démographie ? Je vais être un peu provocateur. Est-ce que vous êtes un maire bâtisseur, Brice Rabaz ? Bâtisseur au sens noble du terme.
Non, mais je vois très bien.
Je ne parle pas un bâtisseur bétonneur. Je parle un vrai bâtisseur.
Moi, j'ai bien compris votre question, et je ne suis pas un maire bâtisseur, je suis un maire rénovateur.
Intéressant.
Parce qu'en fait, mon idée, ce n'est pas de bâtir uniquement... Mais c'est de... Vous parliez de ville sur la ville, ou vous parliez d'espace. Nous, on a 40% de nos espaces de la ville qui sont des espaces... Enfin, de nos territoires communaux, plus exactement, qui sont des espaces verts ou naturels. On les préserve. Ça veut dire que si on doit faire évoluer la ville, c'est sur les 60% qui sont bâtis.
On n'y touchera pas aux 40%.
On n'y touchera pas. L'idée, c'est d'en revanche, sur les 60% restants, de les faire évoluer. On a beaucoup de zones, secteurs pavillonnaires, où il y a beaucoup de jardins. Et ceux-là, on veut les préserver aussi. C'est une grande partie du territoire de la ville.
Oui. Et les Français, les Chélois et les Chélois sont très attachés à leur petit pavillon et leur petit bout de jardin.
Exactement. Et ils ne sont pas tous petits, d'ailleurs. Et ouais, ça, ouais. L'intérêt. Et par contre, il y a quand même une vraie densité intéressante. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas non plus, on n'a pas vocation à entasser les gens non plus.
Le pourcentage collectif individuel
C'est assez équilibré, 55-45.
Ah oui, quand même.
45 de, en gros, hein, 45 d'individuels, 55
de collectif.
De collectif. Mais comme il y a plus d'habitants dans les maisons, forcément, avec les enfants, etc., que dans les appartements, on a grosso modo une population assez équilibrée.
D'accord.
Avec des seniors qui viennent plutôt s'installer dans les appartements.
Logique.
Et des familles qui aiment bien venir dans les pavillons, notamment pas loin de la gare ou avec des. Parce qu'on a la chance d'avoir Rachel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a les avantages de la Grande Couronne, donc des espaces verts, les gens se connaissent. C'est le côté un peu petite ville de province avec son petit marché.
Très bien. Voilà. Mais top, absolument. Ouais. Il y a une encablure de Paris.
Et bien, vous avez résumé. Avec tous les services d'une ville de petite couronne.
Voilà. Chez Paris, on met combien de temps ?
Un quart d'heure. Mais il n'y a pas que ça.
C'est
qu'on a aussi, chez nous, sur place, tout ce qu'il faut. On a 85 clubs sportifs, on a des dizaines de gymnases et équipements sportifs, on a 6 collèges, 4 lycées, on a une trentaine d'écoles, donc de proximité. On a plein d'élèves qui peuvent aller à pied à leur école ou leur collège. On a 2 EHPAD, on a des résidences seniors, on a...
Combien d'administrés sur la ville de Chelles ?
Il faut compter à peu près 54 000 personnes.
Et vous gagnez combien d'habitants chaque année ?
C'est assez faible. En fait, on a une vraie stabilité qui s'explique. Bah, vous avez évoqué les difficultés du marché immobilier. En fait, on est une ville très dynamique, très recherchée, mais on ne construit pas énormément, pour les raisons que j'ai évoquées. Mais surtout, une ville où, en fait, il y a le desserrement des foyers, avec les enfants qui quittent la maison, mais les parents qui restent.
C'est une ville qui est... On a posé des questions, justement, sur les villes de votre département. Vous êtes une ville qui plaît aux gens, où les gens aiment vivre à Chelles. Vous avez vraiment...
Vrai.
Parce que vous l'avez rappelé, un quart d'heure, c'est rien.
Un quart d'heure, mais aussi avec tout... J'aime
un
bien cette
de Paris parce qu'il y a la grande ville, tout converge vers le centre, mais vous avez créé une nouvelle centralité à Chelles avec du loisir, de la culture, du sport.
On a un nouveau musée, on a développé 2 gymnases, on a construit un nouveau collège, on a des 2 médiathèques qui tournent très très bien, on a beaucoup d'activités culturelles et sportives, et en gros on a aussi une vie commerçante. On a un marché, des marchés nocturnes qui attirent des centaines voire des milliers de personnes à chaque fois. On a une fête de la musique avec plus de 10 000 personnes. On a notre musée, il y avait 1 000 personnes la première journée. En gros, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est qu'il se passe des choses à Chelles, que ce ne soit pas une ville dortoir. C'est une ville qui a 300 associations actives, 85 clubs sportifs. Ça marche. En fait, on peut faire plein de choses à Chelles.
La rénovation, vous avez dit, c'est la ville qui se bâtit sur elle-même. Il y a plusieurs choix urbanistiques qui sont faits, bien évidemment à l'instar d'un changement climatique, avec rétablir la consommation, la ventilation, avoir les équipements basiques de brasseur d'air, ne serait-ce. Un brasseur d'air, c'est 4 degrés d'écart, alors que ça coûte très peu de l'installer. La climatisation, mais également la surélévation. La surélévation, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 40% d'espace vert sur votre ville. Est-ce que ça veut dire que, finalement, les relais, les friches foncières que vous auriez, ça s'amenuise, on est d'accord, de plus en plus. Est-ce que aujourd'hui vous dites... On va s'appuyer sur le patrimoine existant. Est-ce que, par exemple, la surélévation des immeubles est une piste ? Est-ce que la transformation de bureaux, qui était peut-être un peu obsolète ou parfois pas très jolie d'un point de vue urbaniste, peut être aussi une source ? Ou les friches, tout simplement, les friches foncières ? Quand on est justement maire d'une ville de 55 000 habitants quasiment, c'est quoi les choix que l'on a pour transformer la ville ? Parce que la ville se transforme nécessairement.
Chaque ville a ses spécificités. Nous, clairement... on n'est pas pour la surélévation. Moi, j'aime bien travailler avec la population.
D'accord.
Dès le premier PLU pour travailler sur le sujet.
Bien sûr.
Parce qu'on a déjà énormément d'espace à rénover. C'est pour ça que j'ai évoqué le terme de rénovation.
La rénovation, c'est quoi pour vous ?
Par exemple, c'est la cité ICF La Sablière, la cité des cheminots, en fait, où vous aviez des barres d'immeubles qui sont... Les gens les aimaient parce que dans les années 50-60, c'était le début d'une nouvelle vie,
mais
qui ne sont plus du tout adaptés aujourd'hui, ni au froid, ni au chaud. Il n'y a pas d'ascenseur. Qui sont en train d'être démolies, reconstruites avec un peu plus de logements. D'ailleurs, parfois accessible
donc
à la propriété.
Pour vous, c'est finalement une déconstruction
rénovation.
Qui rénove et qui redonne avec un empattement sur lequel on ne prend pas plus de foncier qu'il n'y en avait.
Exactement. Ou parfois, on optimise et on a parfois, au contraire, rendu des espaces qui n'étaient pas utilisés, qui étaient des parkings un peu délaissés,
bien
etc.,
sûr.
Qui vont devenir des jardins partagés ou qui vont devenir des jardins loisirs.
Est-ce que vous gardez la même hauteur, Brice ?
Voire même, parfois, on fait moins haut, mais on peut faire la densité supérieure.
Je crois savoir que vous n'êtes pas un adepte de la verticalité, de la hauteur.
Pas du tout. parce que ça
vous voulez préserver,
pas
en fait,
nous.
Voilà.
Ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite sur Shell pour plein de raisons différentes. Déjà, il faut prendre en compte qu'il y a une grosse partie de notre ville qui est pavillonnaire. Il faut un équilibre par rapport à tout
oui,
ça.
Bien sûr.
En revanche, moi, je suis très attaché, avec les Shellois d'ailleurs, et qui l'ont témoigné, à une architecture qui correspond aussi à la construction de notre ville, notamment avec la Meulière, le Mansart, etc. Et par exemple, sur la cité Cheminette-Issef-la-Savière, on arrive à faire du Mansart en résidence sociale. Les gens n'ont même plus l'impression qu'ils vivent en social. Parce que pour certains m'ont dit que c'était la première fois qu'ils étaient fiers d'habiter leur ville. On a un autre exemple, c'est une résidence senior qui a été construite à la place d'un garage, d'un ancien garage.
C'est génial.
Il fallait qu'on fasse du logement.
Il y a le logement intermédiaire aussi qui prend un essor.
Il y en a eu un petit peu aussi.
Voilà, qui prend un essor considérable.
Ce qu'il faut, c'est penser au parcours résidentiel pour tous les âges de la vie.
La dernière partie de cette interview, Ibriss Rabas, et merci encore une fois d'avoir accepté de venir sur notre plateau, c'est le pouvoir effectif des maires. Alors, on l'aura compris, je ne suis pas un fan absolu du macronisme. Ça, mais c'est déjà connu sur le marché, sur la place. Ce que je dis, d'accord, ok, super. Voilà, on passe devant les caméras, mais c'est pas grave. Ça, c'est les joies du direct. C'est pas grave.
Et pour les toilettes.
Voilà, on parle justement d'un sujet important qui est celui de la considération des maires. J'ai vu baisser de manière graduelle, mais certaine, les dotations qui vous sont données. J'ai vu transférer vers les maires que vous êtes des compétences sans y associer les recettes. Autrement dit, on vous demande de faire plus avec moi. Je caricature un peu. Est-ce que, Brice Rabat, vous avez l'impression que la fonction que vous occupez, face à un pouvoir centralisateur qui se jacobinise, à l'aube d'une élection majeure sur le pays, elle n'est pas forcément destinée à vous rassurer? C'est quoi l'avenir du maire à l'aube d'une élection présidentielle sans précédent, qui tente d'ailleurs de nous enfermer dans une radicalité opposée entre le RN et LFI, bien évidemment, comme s'il n'y avait rien qui existait ailleurs, mais surtout le fait que, effectivement, on a l'impression que cet État centralisateur a clairement, alors j'utilise le mot parce que je caricature un peu, mais méprisé quasiment la fonction d'un élu local. Je suis peut-être un peu dur, mais bon.
Non, moi je vais vous dire très honnêtement, mes convictions, elles sont connues.
Oui.
Moi, j'ai été élu pour gérer. Donc moi, j'assume la responsabilité. Personne ne m'a obligé à me présenter aux élections municipales, dans le contexte qu'on connaît. Je sais que ça va être dur. Je ne connais pas. Dans ce mandat, il est possible qu'on ait deux élections présidentielles, d'ailleurs. Donc,
oui,
2027 et 2032. Au moment où on se parle, on ne connaît pas du tout l'issue du scrutin.
Non.
Ce qu'on sait juste, c'est qu'elle se passe dans un contexte politique très tendu qui fait que nous, aujourd'hui, parce qu'il y a demain, mais il y a aussi aujourd'hui, on est beaucoup dans l'inconnu. C'est-à-dire que nous, on prend des décisions au quotidien en tant que maire. Vous allez en voir plein, quelles que soient les étiquettes politiques dans ce congrès. Ils prennent des décisions au quotidien, parfois sur le long terme, sans savoir s'ils seront suivis à terme par l'État. On parle de la canicule, par exemple. On a beaucoup. On a mis des ventilateurs, des brumisateurs, on installe des clims, etc. Sans forcément avoir d'ailleurs des pistes de réflexion de la part de l'État sur ce qu'il faut qu'on fasse dans les bâtiments, en fait, qu'on gère, mais qui sont exploités par l'État d'une certaine manière. Donc on avance beaucoup dans l'inconnu. Moi, je considère que les maires, effectivement, on n'est pas que là pour se plaindre, même si on a de vraies raisons de le faire, clairement. On a moins d'argent pour faire de plus en plus de choses demandées par l'État. Il y a des injonctions contradictoires. La ministre l'évoquait d'ailleurs. C'est que vous demandez parfois à l'État ce qu'on doit faire. Il va vous répondre trois fois différemment. Elle l'a dit elle-même. Moi, je considère qu'on a de la chance, par Seine-et-Marne, d'avoir un bon préfet et un bon sous-préfet qui nous accompagnent au quotidien, qui font ce qu'ils peuvent dans le cadre d'un État qui n'a pas de majorité aujourd'hui, donc qui navigue un peu à vue. On est là pour gérer, je pense qu'il faut qu'on assume nos responsabilités, mais je pense aussi, et je terminerai là-dessus, que c'est notre rôle d'élu aussi d'expliquer les choses aux citoyens. En fait, il ne faut pas prendre les citoyens, qu'ils soient électeurs ou pas d'ailleurs, pour des idiots. Je pense qu'il faut leur dire clairement les choses. Voilà, ça on sait faire, ça on ne sait pas faire. Voilà. Là, on me demande de dire qu'est-ce qui se passe, il y a des noyades dans la Marne. Moi, je ne sais pas mettre la baignade dans la Marne d'un claquement de doigts. Ça prend des années parce qu'il faut assainir l'eau, il faut faire des aménagements, etc.
C'est clair.
Et je pense qu'il faut l'expliquer. On n'interdit pas, par exemple, la baignade dans la Marne pour embêter les gens, mais c'est parce que c'est dangereux.
Mais
et
oui,
que
bien
les
sûr.
Aménagements, ça ne se fait pas comme ça,
mais
et que ça
sûr.
Peut prendre des années.
Bien sûr.
Et je pense que dans tous les domaines, c'est ça. Moi, je pense que ça fait partie des. On a cette chance, nous, élus locaux, par rapport à les élus nationaux, d'avoir un peu de temps et aussi de pouvoir toucher davantage les gens. Mais on sent qu'il y a une défiance vis-à-vis de la politique en général. Nous, on est moins concernés. Et donc, il faut qu'on argumente beaucoup plus qu'avant pour être entendu.
C'est pour ça, finalement, que, comme dirait le général de Gaulle, l'important, ce n'est pas de sortir de l'ENA, mais de sortir de l'ordinaire. Et vous, vous êtes tout à fait cette définition, justement, de cette singularité dont ont besoin les Français. Réenchanter la politique, je pense que vous l'incarnez parfaitement.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau.
Merci beaucoup.
Brice Rabastre, je rappelle que vous êtes maire de Chelles, vice-président du conseil départemental de Seine-et-Marne, en charge des transports et de mobilité. Je gage que nous vous reverrons très rapidement sur le plateau. Merci d'être passé. Il est quasiment presque 18h. Il est 17h41 exactement. On va se retrouver dans quelques instants pour la fin justement de cette première journée, ici en direct à Roanne, pour le congrès des Villes de France. A tout de suite.